Je vais essayer de commencer cet après-midi puisqu'il enregistre tout.
On marque tout, c'est pas grave. Oui. On aura tout.
Dieu qui est parti. Bon. Alors, bon, chaque fois, il faut que je reprenne mes esprits. Par conséquent, donc le temps du carême nous entraîne, dans le fond, dans un exode tout à fait intérieur. Où le Seigneur veut nous libérer dans le fond de nous-mêmes, de tout ce que nous croyons être, et en fait ce qui est faux, pour faire émerger en nous cet être nouveau, de la même façon qu'il a fait passer d'un peuple d'esclaves à un peuple élu. Et donc la véritable élection, c'est d'appartenir au Christ. Et ben, le modèle parfait, c'est la Vierge Marie. Et on a vu que dans la Vierge Marie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une femme au-dessus, c'est une femme au-dessous. Et c'est parce qu'il n'y a rien en elle que le Seigneur peut tout faire. Donc il n'y a aucune limite de l'action de Dieu dans le... Et alors ce qui se trouve à la profondeur de cette action de Dieu, c'est justement comme elle est petite, quand on n'a rien, on est demandeur de tout. Et la Vierge Marie est demandeuse de tout. Et donc il peut accomplir en elle ce qu'il a prévu de toute éternité, elle n'y fait aucune opposition. La chose la plus incroyable, devenir la mère de Dieu. Donc on avait essayé d'explorer ses voies ce matin. Et on a vu aussi, faisant partie de ce vocabulaire, que le Seigneur, c'est important, désirait ardemment, donc vu qu'il veut nous faire partager sa propre vie, s'unir à notre cœur. De toute façon, à ce qu'on fasse un seul cœur avec lui. À travers, tout ce qu'il nous a demandé aux uns et aux autres. Certains sont amenés dans la vie contemplative, mais quand même, la majorité des gens sont appelés à rester dans le monde. Mais voyez-vous, votre efficacité dans le monde, votre puissance chrétienne, on pourrait dire, dans le monde, sera surtout en fonction de votre disponibilité pour lui être... suivant toujours, vous avez compris, j'aimais beaucoup Elisabeth, une humanité de surcroît. Hein, puisque l'Église est son corps, si on pousse la comparaison à l'extrême, si nous ne faisons pas ce qui est commandé par la tête, nous faisons suivant ce qui nous plaît, jusqu'à preuve du contraire, on appelle ça une métastase, quoi, ça fait. Nous sommes au risque de former un cancer dans l'Église. Et ça peut arriver même chez des gens qui sont très pieux, vous voyez. Les gens sont très pieux, puis pour finir, ils font ce qui leur plaît. Ils n'écoutent jamais une parole venant d'église, ils ne sont jamais dans l'obéissance, mais ils sont uniquement dans ce qui leur semble bon et à un petit groupe de personnes. Et pour finir, ils ne construisent pas l'église, ils la démolissent. Donc ce que veut ardemment le Seigneur, c'est pouvoir s'unir à nous, parce qu'il est amoureux, et puis voilà, quand on est amoureux, on veut s'unir à la personne que l'on aime. Et donc ça peut être transposable de façon très pure sur le plan spirituel. Il veut s'unir à nous. Mais ce que nous avions ébauché ce matin, c'est que de la même façon que le peuple hébreu va errer 40 ans jusqu'à plusieurs fois avoir le cafard et vouloir revenir dans l'esclavage, et ce sont des choses aussi qui nous guettent. Hein, on va vers Dieu, puis il y a des moments où au niveau de notre foi, on commence à baisser les bras. On a bien envie de tout envoyer sur les roses et de revenir en arrière. Mais il ne faut pas croire que pour autant le Seigneur nous abandonne, surtout à l'heure actuelle où tout est difficile dans l'Église. En fait, il veut nous entraîner vers sa profondeur et les épreuves que nous traversons ne sont pas un gage de l'abandon de Dieu ou à savoir que nous sommes aussi sur une fausse route. Lui-même a souffert durant toute son existence et sa mère de même. Et on pourrait dire qu'à partir du moment où Marie, lors de la présentation de Jésus au temple, a appris le vieillard Siméon qu'un glaive lui transpercerait l'âme, on pourrait dire que dans la profondeur de Marie, elle a su que ce mystère d'amour, ce mystère de la rédemption, ne pouvait s'opérer qu'à travers des souffrances. Donc les souffrances que nous traversons ne sont pas le gage que Dieu nous a abandonné ou qu'on est sur la fausse route, bien souvent, c'est le contraire. Vous comprenez, une personne qui est réticente, qui ne se laisse pas remodeler par Dieu, ben Dieu la laissera faire comme elle veut. Mais si nous nous offrons à lui, il est trop content de pouvoir nous communiquer son amour, donc Il va créer en nous, en quelque sorte, une structure spirituelle, de façon à ce que nous puissions nous unir à lui. Et en quelque sorte, il va créer en nous la pauvreté. Vous avez compris que c'est la pauvreté, même spirituelle, de la Vierge Marie qui lui permet de... Hein, le pauvre est mendiant, et elle est mendiante de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, moins on compte sur nous, plus il peut nous accorder. Alors là, vous qui êtes dans le monde, grande méfiance par rapport aux personnes qui sont persuadées d'avoir trouvé des trucs et qui se prennent au sérieux parce qu'elles ont trouvé la voie, etc. Faut débander un peu, mon pote. Et on évoquait ce matin l'itinéraire de la confiance. On est dans la pauvreté, il nous entraîne dans la pauvreté et dans un itinéraire de confiance pour pouvoir opérer en nous. Bien souvent sans qu'on ne sente rien. Alors là, je vous cite ici un passage de Sainte Thérèse d'Avila. C'est les faveurs de Dieu. Alors, comme le disait le Père Jean ce matin à la messe, il avait dit au Seigneur, justement, comme il n'y avait rien, il dit, si c'est comme ça que vous traitez vos amis, vous ne devez pas en avoir beaucoup. Voilà, la liberté des enfants de Dieu. Donc, enfin, le Seigneur sait ce qu'il fait dans sa grande bonté. Et nous, notre impression, c'est que souvent, donc, on est abandonné. Et alors, le Seigneur, une fois, lui a parlé, bon, parfois il peut parler, quoi, des grands saints, « Ne crois pas, quand tu vois ma mère me tenir dans ses bras, qu'elle ait joui de ses bonheurs sans grave tourment. Depuis que Siméon lui eut dit les paroles que tu sais, mon père lui fit clairement voir ce que j'aurais à souffrir. Aussi, les grands saints qui vécurent dans le désert, vous voyez les premiers moines, guidés par Dieu, faisaient une austère pénitence sous peine de livrer de rudes combats aux démons et à eux-mêmes. Ils passaient de longs jours sans consolation spirituelle. Crois, ma fille, que mon père inflige ces rudes épreuves à ceux qu'il aime le plus. » Ce n'est pas un gage d'être loin de Dieu. Ceux qu'il aime le plus, eh bien, il les corrige dans le fond pour pouvoir leur donner plus. Elles répondent, parce qu'elles répondent, dit-il à Thérèse, à son amour. Comment pourrais-je mieux te montrer cet amour qu'en voulant pour toi ce que j'ai voulu pour moi? Regarde, ces plaies, ces douleurs n'iront jamais jusque-là pour toi. Tel est le chemin de vérité. Donc, vous retenez de ceci que la vie de relation à Dieu n'est pas une vie de... Je vous employer le terme. C'est pas une garantie d'un orgasme à l'état gazeux, ou je sais pas, on a des choses sensationnelles. C'est souvent toute une série d'épreuves intérieures, mais qui nous dépouillent tellement que l'on finit par être revêtu des sentiments du Christ, lui qui vécut durant toute son existence dans cette aridité, puis jusque, vous dit, à l'impression d'abandon du Père. À tel point que, je vous parlais de ce qu'il désire ardemment pour tout être humain, c'est s'unir à lui pour le faire partager toute sa vie. Et s'il lui fait partager sa vie, il fait partager la plus grande profondeur du mystère de l'amour. La plus grande profondeur du mystère de l'amour, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Donc, plus nous allons vers lui, plus nous sommes disponibles pour lui, plus nous rencontrerons cette joie des enfants de Dieu, mais qui est inséparable de purification à l'intérieur de nous, qui nous feront souffrir. Donc vous rappelez que ce n'est pas le gage que Dieu nous abandonne, mais bien au contraire, qu'il nous entraîne sur ses chemins. Et nous découvrons petit à petit, de cette façon, les sentiments du Christ, la façon dont il a fonctionné, la façon dont il est, dans le fond, et comme la Vierge Marie, ont toujours été abandonnés au vouloir du Père. Ce qui faisait dire à cette mystique, qui n'est pas béatifiée, mais que j'aime beaucoup, moi, personnellement, qui était, je vous l'ai parfois cité dans les pèlerinages, et qui est morte, je pense, dans les années 60 ou 70, à Bâle, en Suisse, Adrienne von Speyer. Elle était médecin à Bâle, protestante, et puis elle s'est convertie au catholicisme, et elle a eu une vie un peu comme Marthe Robin. Donc, elle était, grosso modo, clouée chez elle, mais avec une mission différente de Marthe, avec une mission, je dirais, plutôt théologique. Il a été permis de comprendre ou de voir, enfin, on pourrait comprendre, c'est la même chose, de comprendre des choses dans le mystère de Dieu. Et alors elle disait à ce propos, en se donnant entièrement au Fils, Marie, a fondé un état nouveau hein, dans l'Église qui est l'état d'abandon. Et il n'y a que dans cet abandon, c'est-à-dire quelque chose dans notre être qui n'oppose plus de résistance à Dieu, qu'il peut accomplir son œuvre d'amour en nous et nous faire découvrir progressivement son trop grand amour qui risque fort bien dans nos vies de toucher au mystère de la croix. Donc ce que le Seigneur va nous demander à travers ça, alors on résume la situation, ce n'est pas parce qu'on se donne à Dieu qu'on va avoir des grâces qui nous caressent dans le sens du poil. Alors parfois il sait ce qu'il doit faire, il est pédagogue, il sait fort bien quels sont les moments où il doit nous soutenir, et ouais, c'est comme le soldat qui va au combat, de temps en temps il faut revenir en permission et puis se refaire une santé avant de repartir au front. Donc, il nous donne des douceurs, mais en même temps, ben, n'oublions pas que si nous sommes engagés vraiment aux côtés de Jésus-Christ, nous sommes dans un combat. Voilà pourquoi souvent les personnes qui sont vraiment données à Dieu ont été comparées à des soldats. Donc nous rencontrons des difficultés au sein de l'Église, nous rencontrons une incompréhension à l'extérieur, tout ça c'est des causes de souffrance, et personne dans le fond ne peut échapper à ces situations. Et elles sont le gage que ben on est à, et qu'on est avec le Christ et que le Christ est à côté de nous. Donc point de découragement si nous nous abandonnons. Hein, le découragement vient toujours du fait que nous regardons à nous, et puisque c'est ça, ben je jette l'éponge et puis j'arrête. Mais le Seigneur nous accompagne dans nos épreuves et ce sont ces épreuves qui nous détachent de nous-mêmes. Et comme on n'y arrive pas, bien souvent, ben on est bien obligé de faire encore plus appel à lui pour qu'il puisse réaliser en nous. Si vous prenez, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle dit, Jésus ne demande que deux choses, l'abandon, hein, c'est-à-dire l'abandon qui permet d'avoir confiance en lui, et puis la reconnaissance de ce qu'il a fait en nous. Et ça ne va pas, je vous dis, sans problème non plus relationnel, puisque bon, dans le cas présent, c'était une carmélite, les relations au sein d'une communauté ne sont pas toujours dans un calme et du flétage, quoi. Comme disait chez nous Jean de la Croix, il nous a mis ensemble, on est des cailloux anguleux pour se polir mutuellement, pour s'arrondir. Donc au sein de...
Il faut quelqu'un pour les rouler, quand même. Hein? Il faut quelqu'un pour les rouler, les cailloux.
Oui, mais c'est le Seigneur qui s'en charge.
Ah bon, bon.
Je sais qu'il y a des espèces de machins là, qui sont vendus dans le commerce. On met des cailloux dedans, puis on fait tourner, quoi, jusqu'à ce que ça... Donc vous saisissez hein, que vraiment plus on est abandonné au Seigneur, plus on est dans cet état de confiance, plus il peut réaliser en nous. Et vous voyez, le retour sur soi fait qu'on se dit, ben là, ça coince aux entournures, donc c'est pas bon, etc. Et des fois où ça marche bien, mais il y a aussi de très nombreuses fois où ça ne marche pas. Il y a aussi une cause extérieure qui est le démon. Plus on va vers Dieu, moins ça lui plaît. Et plus il fera opposition. Et généralement, par le biais des personnes qui nous sont le plus proches. Ne pas faire opposition à nous par M. Sanchez, qui est pharmacien à Santiago du Chili. Il s'en bat les flancs, il est bien loin. Et il ne connaît pas notre existence. Donc c'est souvent par l'intermédiaire des personnes qui nous sont le plus proches, que nous avons le plus à souffrir. Alors donc, restons dans, ou essayons, demandons au Seigneur de nous aider d'aller dans cet état de confiance et d'abandon. Et par exemple, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui aimait beaucoup Sainte Cécile, une martyre des premiers siècles, elle disait, j'aime surtout chez elle son abandon, sa confiance illimitée, qui l'ont rendue capable de virginiser les âmes, c'est-à-dire de purifier les âmes. Oui. Plus on est abandonné, plus Dieu peut agir en nous, plus par nous, il peut faire passer, communiquer son esprit, et comme son esprit est très pur, donc ça purifie aussi les âmes. Vous voyez l'intérêt de la profondeur de la confiance. Sainte Cécile est semblable à l'épouse des cantiques. En elle, je vois un cœur dans un camp d'armée. Sa vie n'a été autre chose qu'un chant mélodieux au milieu même des plus grandes épreuves. Et cela ne m'étonne pas puisque l'évangile sacré reposait sur son cœur et que son cœur reposait sur son cœur reposait l'époux. Donc nous serons de plus en plus féconds dans l'Église si on est dans cet état d'abandon, de confiance en Dieu. Et on l'évoquait ce matin par le mot qui ne plaît pas du tout à l'heure actuelle, c'est le mot d'obéissance. Et vous rappelez, je vous donnais l'étymologie, c'était passer sous une écoute. Si nous voulons faire suivant notre tête, nous ne sommes pas dans l'écoute. Dans l'écoute de nous-mêmes, oui, mais pas dans l'écoute de Dieu. Alors, Cette obéissance en nous n'est pas spontanée, puisque nous n'aimons pas l'être de chair, l'être pécheur. Il veut faire ce qui lui plaît, on pourrait dire même de façon aveugle, parce que la vie ne se trouve que du côté du Christ. Donc on peut poser des tas d'actes qui viennent de nous-mêmes, qui nous semblent bons, mais qui ne vont pas plus loin que notre mort. Alors que celui qui se livre au Christ, qui commence à comprendre cette obéissance au Christ, il y a des choses qui le feront souffrir, parce que ça le fait sortir un peu de ses gonds. Et notre amour propre est pris à contre-pied. Mais dans la mesure où nous aurons eu des premiers balbutiements d'obéissance, on pourra faire un retour en arrière, disons un flashback, et comprendre qu'on est largement gagnant d'avoir obéi pour cette petite chose. Et que pour finir, ce qu'il nous propose, ça nous semblait, nous, suivant nos vues, quelque chose qui se rétrécissait, et comme on l'a accompli dans l'obéissance à lui, c'est tout à fait l'inverse, ça va vers quelque chose qui s'élargit, qui augmente encore notre espace de liberté et notre bonheur. Donc il ne va pas non plus, je vous disais, toujours sans souffrance. Alors voyez-vous, plus nous commençons à nous livrer à des petites obéissances par rapport à lui, plus dans le fond nous sommes libérés de nous-mêmes, et plus on découvre cet espace des enfants de Dieu. Puis à ce moment-là, commençons à comprendre comment ça fonctionne en Dieu, hein, son état d'esprit, son esprit saint, et bien la fois d'après, on sera disponible pour une œuvre d'obéissance un peu plus grande, et ainsi de suite. Et en toutes ces choses, chaque fois, on sera pris à contre-pied, et pédagogiquement, chaque fois qu'il y a un acquis, qu'on a compris un processus, il va pousser le bouchon un peu plus loin. Et vous comprendrez, ou vous comprenez déjà à ce moment-là, que il y a un amour prévenant qui est posé sur nous. Et que notre vie qui semblait se bâtir dans le hasard, dans la contingence du moment, c'est peut-être la vision qu'on a sur le moment, est en fait entre les mains de Dieu, et qu'il y a une logique qui nous fait sortir de nous-mêmes pour nous amener plus profondément en lui. Et que l'on a tout intérêt, à ce moment-là, à correspondre à cette obéissance. Étant donné qu'il sait où nous en sommes, bien plus que n'importe quel psychologue, étant donné qu'il sait où nous en sommes, si au départ on a besoin des tas de faveurs sensibles, pour nous faire mordre à la meçon en quelque sorte, il les enverra. Puis s'il voit qu'on a bien mordu à la meçon et qu'il n'y a pas besoin de faire cette dépense inutile des faveurs sensibles, il ne les fera plus. Et donc il y a aussi, ça va correspondre à votre étape de vie, nous rentrons dans une forme d'aridité, hein, qui est l'aridité du désert, l'aridité de l'exode. Dans un désert, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas un McDo derrière chaque caillou. Alors on voit que nos calculs et nos stratégies très complexes ne tiennent pas la route et ça va pousser à une forme d'abandon plus grand. Vous voyez, ça recommence sans arrêt, toujours plus loin. Et c'est ce qu'il disait au prophète Osée, c'est une des grandes phrases qui conduit, par exemple, ceux qui sont appelés vers la grande solitude, alors avec la solitude physique, même pour Dieu, la vie d'ermite, de personne qui vit dans le silence totalement séparé de Dieu, et la parole qu'il donne à Osée, je t'amènerai au désert, et je parlerai à ton cœur. Justement, comme il n'y a plus rien, il est disponible pour écouter ce que Dieu veut lui dire. Osée 2.16. Alors les déserts, il n'y a pas besoin d'aller au Sahara. Les déserts dans vos vies, vous en avez connu et vous en connaissez. Il y a des tas de périodes dans nos existences, comme dans un désert, en apparence, il n'y a pas grand-chose à faire. Où on est dans un espace qui est totalement vide. Dans une solitude, dans le fond, qui n'a pas été choisie, mais dans laquelle, étant donné qu'il n'y a plus rien, on peut soit combler ce vide en se fabriquant des tas d'activités, ou alors accueillir ce que Dieu veut nous dire dans ce désert de nos existences. Et je vous dis, il y en a de toutes sortes. On peut se retrouver seul dans la vie, on peut, par exemple, se retrouver au chômage, on peut se trouver, comme vous l'évoquiez, renvoyé par le prêtre de la paroisse. Et tout ça, c'est des choses, bon, c'est pas trop risible, parce que mine de rien, ça fait beaucoup souffrir. Et ce n'est pas pour autant que Dieu nous abandonne, c'est qu'il a l'intention de nous parler plus profondément et de nous faire découvrir des choses beaucoup plus belle et qui correspondent en quelque sorte à son existence.
Ouais, donc, dans cet espace où il nous entraîne, où nous rencontrons aussi des épreuves, dans le fond, lui, son gros problème, c'est de nous libérer de notre moi. D'ailleurs, là aussi, nous nous trouvons à l'opposé de la société actuelle, ou même parfois de certaines conceptions qu'on peut retrouver dans les ordres religieux, et qui sont des conceptions, à mon avis, mortifères. Quand j'entends dire, par exemple, « Oh, il faut que le frère soit bien. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il soit bien dans son être de chair, hein, dans son moi pécheur et égoïste, ou qu'il soit bien en Dieu. Et s'il est bien en Dieu, forcément, ça va passer par des choses, par des arrachements, pour qu'il soit total. Il veut le pousser vers un total abandon, une totale confiance en lui. Vous voyez que je vous donne là des choses avec des mots ultra simples, du vocabulaire de tous les jours, l'abandon, la confiance, etc., le rien, mais qui sont d'un enjeu capital parce que ça va vous permettre de rencontrer Jésus comme... c'est pas le Jésus que vous allez lire uniquement dans des livres, c'est Jésus, c'est une expérience profonde d'existence et souvent comme lui, à travers quelque chose de qui est aride, mais qui en même temps... vous comble déjà, même si on n'a pas la plénitude de ce comblement que nous n'aurons qu'au ciel, qui vous comble déjà beaucoup plus que tout ce qu'on veut vous proposer par ailleurs. Et c'est quelque chose que l'on rencontre souvent chez les personnes. Personnes viennent vous voir et on voit bien qu'elles sont travaillées intérieurement par le bon Dieu et qu'il les pousse dans le fond dans cette aridité pour leur donner plus. Et c'est aussi important en ce qui concerne le fait de porter l'évangile. Qu'est-ce que nous pouvons porter des évangiles si c'est uniquement une connaissance livresque ? Nous ne sommes convaincus que par des gens qui eux-mêmes sont convaincus en quoi que ce soit. Ils arrivent à nous faire passer leurs convictions. Alors si vraiment nous sommes livrés au Christ, ben, c'est le Christ qui en nous attire la personne. Donc voyez l'intérêt de cet abandon et de ne pas avoir peur des épreuves que nous traversons, qui en fait nous purifient et nous dégagent de nous-mêmes pour laisser un espace de plus en plus important au Seigneur. Et ça fait penser au Cantique des Cantiques, vous savez, ce poème d'amour là que prennent les mariés, sans trop comprendre, qui est souvent proposé, vous savez, dans les livrets pour les mariages, il y a un certain nombre de textes, les gens n'y connaissant plus rien, maintenant, ben, on leur propose des textes. Alors, 9 fois sur 10, ils vont prendre le Cantique des Cantiques, parce que ils le voient au premier degré et ils voient la source de tout leur désir érotique. Mais dans l'histoire du Cantique des Cantiques, c'est l'aventure de l'âme, dans le fond, avec Dieu, qui au départ fait la mariole, et puis quand Dieu vient la visiter, fais-moi la paix, je suis couché. Mais à la fin, elle ne dit plus rien. Et c'est ses copines qui disent, mais quelle est celle qui remonte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacune de nos âmes. Vous voyez, s'il nous fait passer à travers ces temps de vide dans nos existences, c'est pour que nous n'ayons plus aucun point d'appui, sauf lui. Hein, il est astucieux. Il sait comment procéder. Hein, il y a une pédagogie et puis il force un peu la main, on pourrait dire.
Il se fait une place.
Hein ?
Il se fait une place.
Il veut se faire une place. Mais il préserve notre liberté, si notre liberté dit non. Alors vous voyez, toutes ces petites choses que je vous raconte, c'est quelque chose qui peut considérablement changer votre existence chrétienne. Et vous conduire à parler de, justement, un Jésus que vous connaissez. Parce que vous en aurez joui, et vous en aurez pâti. Parce que vous avez résisté à ce qu'il veut réaliser en vous. Mais c'est profondément une expérience de quelqu'un qui est vivant. C'est l'expérience dans l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel, du prophète Élie, hein, par le Dieu vivant devant qui je me tiens. Ce n'est pas un Dieu dont il a entendu parler, mais c'est un Dieu dont il a expérimenté la force, la grandeur, la bonté, la générosité, mais aussi où il a pris un bon nombre de claques. C'est comme dans Astérix, Obélix, dit une bonne éducation, ça passe par des paires de claques. Mais le Seigneur sait nous en donner. Mais, hein, si vraiment on est réticent et qu'on veut faire par nous-mêmes, mais quand on va vers lui, justement, il purifie. Alors pour le Seigneur aussi, puisqu'il a pris la condition humaine, et sans le péché, puisqu'il est Dieu, mais à travers nos faiblesses humaines, ben, l'obéissance aussi pour Jésus a été un... Il avait sa volonté propre. Si vous pensez par exemple à Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors on est placé face au même dilemme. Non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Mais pourquoi ? Pour notre plus grand bien, pour finir. Oui, on peut retrouver aussi en filigrane, là, tout le drame du péché originel. L'homme veut se débrouiller par tout seul, sans Dieu, et à ce moment-là, il s'aperçoit que sa vie est de plus en plus difficile.
Et dans le Notre Père, on le dit que sa volonté...
Et oui. Ce n'est pas au premier degré, on se dit que ta volonté soit faite, et dit merde, c'est bien ma chance. Moi qui voulais faire ci, qui voulais faire ça. Donc si je fais la volonté de Dieu, je ne serai pas heureux. Hein, c'est ce qu'on se dit. Mais dans le fond, c'est l'inverse. Si je fais ta volonté, ça va me coûter parce que ça va me faire sortir de mon projet à moi. Mais si je fais ta volonté aussi, je vais découvrir un espace de liberté et de bonheur que je ne connaissais pas. Moyennant un arrachement à ce que je suis. Je vous parlais hier du baptême qui se réalise ainsi à travers nous. À travers ce qu'il nous propose. Quoi. Tout cela nous purifie et nous laisse un espace intérieur de plus en plus grand pour découvrir le projet d'amour de Dieu sur nous. Et donc nous pouvons en parler en connaissance de cause à ceux qui nous entourent. Parce qu'on connaît Dieu, je vous dis, à la fois on jouit et on empathie. J'en reviens à Adrienne, hein, puisque maintenant vous avez compris, donc un médecin à Bâle. C'est elle entre autres qui a permis... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce prêtre, là, Urs von Balthasar, ça vous dit quelque chose, ce nom ?
Balthasar, oui, mais...
Hein, ça a été un grand théologien là, du XXe siècle. Et c'est lui qui s'est occupé d'Adrienne. Et donc, à travers tout ce qu'elle a dit, ensuite, ça lui a permis de développer toute sa théologie. C'était un jésuite. Donc, Adrienne a dit, dans son commentaire de l'évangile de Saint Jean, que son modèle d'obéissance... Hein, de Jésus se fonde sur l'amour, car le modèle de toute obéissance est la relation du Père avec le Fils. Tout ce que le Père ordonne est amour, même lorsque c'est quelque chose de pénible. Et ça rejoint ce que je vous avais dit précédemment. Hein. Nous pouvons passer dans nos existences à travers des périodes qui nous semblent incompréhensibles, qui sont douloureuses, mais dans le plan d'amour de Dieu, il permet pour nous conduire vers un espace de vie encore plus grand. Donc je reprends. L'obéissance du Fils se fonde sur l'amour, car le modèle de toute obéissance est la relation du Père au Fils. Tout ce que le Père ordonne est amour, même lorsque c'est quelque chose de pénible. Tout ce à quoi se soumet le Fils est amour, même lorsque dans la nuit de la souffrance, il n'en saisit pas le sens. L'obéissance est l'expression de l'amour, son expression peut être la plus forte. Mais l'amour reste toujours la mesure et il embrasse tout. La soumission d'amour du Fils au Père est donc la mesure pour tout ordre humain, toute obéissance humaine. Ce n'est que dans l'amour qu'on peut donner un ordre et être obéi.
Tu veux le répéter, cette phrase, elle est magnifique.
Ce n'est que dans l'amour, c'est celle-là ?
Oui.
Ce n'est que dans l'amour qu'on peut donner un ordre et être obéi. Oui, ça nous fait découvrir aussi autre chose, c'est la beauté de l'Église. Hein? Alors ça nous fait sortir vraiment de ce schéma qu'on a d'Église, avec des querelles de sacristie, des façons dont il faut fleurir l'autel, de certains styles liturgiques, etc., etc. Et on voit que le mystère de l'Église, c'est beaucoup plus profond. C'est d'être uni au Christ et de participer au salut du monde avec lui, en s'offrant à lui et par cet espace de liberté qu'il veut créer à l'intérieur de nous, s'unir à nous, qu'on lui soit une humanité de surcroît, dans le fond, dans laquelle il puisse prolonger tout son mystère. Et donc, pour rattacher à ce que nous disions au départ, c'est tout l'espace déjà du baptême qui nous purifie, et les purifications du baptismal font souffrir. Plus vous serez ouverte à l'action du Christ, c'est une façon d'exprimer la prière, parce que là aussi, on est souvent dans un univers où la prière, je vous disais de vous méfier un peu de la magie de la prière, de la fausse prière, où il y aurait des formules extraordinaires qui permettent... Dans le fond, le cœur de la prière, c'est être ouvert à son action. Je vous évoquais ce matin la vocation du jeune Samuel, parle, et qui correspond à cette obéissance des profondeurs, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il prend le photographe. Alors, comment dire, je reprends la phrase que je vous donnais. Hein, je viens à la prière et le Seigneur ne me parle pas. Rassurez-vous, moi non plus. Quand une personne vient vous voir, même la Vierge Marie, quoi, c'est pas. Parce que c'est pas leur mode d'action ici-bas. Leur mode d'action ici-bas, c'est de se donner dans la foi et dans la confiance et dans l'abandon. Mais nous en mesurons les résultats, à savoir que sa parole est efficace, parce que nous allons changer petit à petit notre façon de voir, de comprendre et d'aimer les choses. Je vous cite là la petite Thérèse au manuscrit A. Jésus n'a pas besoin de livres ni de docteurs pour instruire les âmes. Lui, le docteur des docteurs, il enseigne sans bruit de parole. Jamais je ne l'ai entendu parler. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jamais je ne l'ai entendu parler, mais je sens qu'il est en moi à chaque instant. Il me guide et m'inspire ce que je dois dire ou faire. Et ça rejoint cela, ce que je vous disais du silence. Hein, le silence, c'est quelque chose qui naît dans le cœur, ou alors c'est une contrainte de surface qui devient insupportable. On a du mal à contenir, même avec des sparadraps. Hein, si vous êtes dans cette écoute de Dieu qui parle au cœur sans bruit de parole, mais qui change petit à petit votre cœur, et qui est amour, hein, il m'instruit sans bruit de parole, et je chante à chaque instant qu'il me guide et m'inspire ce que je dois dire ou faire. Et à ce moment-là, on n'a pas tellement envie de remonter du silence, parce que c'est beaucoup plus comblant que tout le reste. Waouh ! Ce que dit Jésus, par exemple, hein, que votre vie, enfin, que vous soyez oui ou non, ou vous refusez, ou vous acceptez. Mais on ne peut pas faire 50-50 entre une vie suivant l'être de chair et une vie suivant l'être qui est spirituel en nous. Suivre les inspirations uniquement de la chair et puis après un petit peu des inspirations de l'esprit. Et ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'il exprime en disant Saint Jean, c'est le Seigneur vomit les tièdes, hein, des gens qui jamais ne seront déterminés. Thérèse d'Avila disait la détermination déterminée. Détermination déterminée à se laisser aimer par lui, quelles que soient les épreuves de métamorphose. Que voulez-vous des métamorphoses? Il y en a tout au cours de notre vie. Il y a des métamorphoses qui sont indépendantes de notre volonté. Et la pire, c'est le passage de l'enfance qui est très équilibré à l'adolescence. C'est cette période transitoire où on est tous mal dans sa peau, jusqu'à se trouver sa véritable personnalité d'adulte. Ça se passe au plan physique, on a un corps qui change de forme, et puis au plan psychique, par notre psychisme, on passe d'un psychisme d'enfant à un psychisme d'adulte. Et parfois on a du mal à se récupérer. Mais dites-vous qu'au plan spirituel, c'est pareil, quoi. Donc il y a des périodes, pour en revenir à ces périodes de souffrance, qui sont des périodes d'instabilité, où justement, si on ne fait pas confiance, on peut sortir de ce champ-là et puis échapper, dans le fond, à ce que Dieu désire ardemment réaliser en nous. Donc, nous sommes incités à rentrer vraiment dans ce paysage d'obéissance et dans ce paysage de dire oui au Seigneur. Et quand nous prononçons le oui au Seigneur, hein, si quelqu'un vous demande, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour, faire la vaisselle? Oui. Bon, il y a un moment où la vaisselle est terminée. Donc oui. Le oui s'éteint parce qu'il n'y a plus rien pour l'alimenter, il n'y a plus de vaisselle sale. Mais quand on dit oui au Seigneur, la différence, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous voyez, on ne peut pas s'arrêter dans nos demandes. Il va entraîner toujours plus loin, parce que lui est sans limite. Et nous prononçons en quelque sorte quelque chose, un oui qui est comme indivisible. Quand, je vous l'avais évoqué lors des pèlerinages, quoi, les poupées russes, quand on ouvre une, il y en a une plus petite et puis une plus petite. Mais là, c'est l'inverse. Quand on prononce un oui, derrière le premier oui, il y en a eu encore plus grand, etc., etc. Et ça finit par ressembler à une vie de plus en plus christique. Alors, intérêt aussi, à travers ce paysage-là, on évoquait le Saint-Esprit, hein, qui essaye de nous guider à travers ce désert et à travers les pièges du désert. Et là, je reprends les paroles de la Mariam, la petite arabe. C'est des paroles assez étonnantes et un peu effrayantes. Parce que, disons, c'est la fin du 19e siècle et on commence à aborder le tout début du 21e siècle. Et c'est peut-être ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle. Le jour vient, donc on y est peut-être, où Satan singera en des personnes du monde, des prêtres et des religieuses, la forme de notre Seigneur et de ses propres paroles. Vous le voyez à travers nos hommes politiques, on prend parfois des paroles un peu qui correspondent à des paroles d'évangile, mais qui ne le sont pas pour finir. Alors comment peut-on s'en sauver, justement, en n'étant pas appuyé sur notre propre jugement, mais en étant appuyé, vous voyez, ça renvoie à cette prière, en étant appuyé sur l'Esprit Saint, il dit, mais celui qui invoquera l'Esprit Saint découvrira l'erreur. On est dans un monde de séduction à l'heure actuelle. Toute personne dans le monde ou dans les communautés qui invoquera l'Esprit Saint et aura sa dévotion ne mourra pas dans l'erreur. Et vous comprenez comment ces choses-là se développent à travers ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et plus vous serez dans la prière au sens où la prière, c'est cette disponibilité intérieure, de façon à ce qu'il soit pour nous cette humanité de surcroît, plus son esprit pourra agir et plus il nous guidera, même si nous sommes à l'inverse de l'esprit du monde et que dans le monde nous aurons à souffrir, comme le dit le Christ. Voilà.
Voilà.
Bon, je me tiens à votre disposition, il fait très beau, je peux confesser les gens à l'extérieur.